Fun for You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans Fun for You, votre podcast dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime avec chaque semaine, vous le savez, dans ce podcast, un expert ou un invité qui vient me rejoindre en studio. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir Loïc Ternicien pour le 24e épisode du podcast Fun for You. Salut Loïc.
Salut.
Alors je suis très content de te recevoir. Tu es naturopathe, herboriste et ingénieur en prévention de la santé et tu viens nous présenter ton livre « Reprendre le pouvoir sur ta santé » qui est sorti aux éditions HarperCollins. Alors tu es parti d'un constat. La bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne. Et donc dans ce livre, tu as décidé de nous proposer une sorte de guide pour vivre plus sainement dans lequel tu tentes de répondre à une question. Et si reprendre le pouvoir sur sa santé était plus simple qu'on ne le croit, ça veut dire quoi concrètement reprendre le pouvoir sur sa santé?
C'est arrêter d'être spectateur de tout ce qui se passe autour de nous et de notre santé. C'est de redevenir véritablement acteur de sa vitalité, la connexion avec son corps, qu'est-ce qui est bon pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments en plus qu'il y a 30, 40 ou même 100 ans autour de nous, dans notre environnement. Et c'est qu'est-ce que je fais en fait? Comment je deviens véritablement acteur? Donc c'est ça, reprendre le pouvoir sur sa santé, c'est reprendre un peu le contrôle.
Comment on fait concrètement finalement pour vivre longtemps et en bonne santé?
Aujourd'hui, ça demande de prendre conscience de tout notre environnement intérieur et extérieur. Parce que être en bonne santé, c'est aussi avoir des liens autour de soi avec d'autres êtres humains et que ces liens soient pas toxiques. Que ce soit vraiment des liens qui nous enrichissent. Et ça, biologiquement parlant, ça a un impact. L'ocytocine, qui est une hormone à l'intérieur de notre corps, apaise le stress, apaise l'anxiété. Et ça, on le voit, il suffit de faire un câlin. Et ça apaise tout ça. Ça peut être les ondes électromagnétiques, l'eau que l'on boit, l'alimentation, le sommeil, le mouvement. Parce qu'on nous dit « faites du sport », mais il n'y a rien de plus... on peut tomber sur
c'est
le...
C'est vrai que c'est vaste, faites du sport...
Et puis, on a le sportif sédentaire. Il fait son heure de sport le matin et il reste le derrière sur une chaise toute la journée. Ça, c'est pas du mouvement. Ce qui est important, c'est le mouvement. Et donc, c'est de regarder un petit peu tous ces leviers autour de nous, que j'en ai répertorié 11, que l'on peut mettre en place, sur lesquels on a des actions simples, faciles et surtout à son propre rythme pour reprendre un petit peu le contrôle.
Alors, tu le disais, le livre, il est structuré autour de 11 principes. C'est quoi ces principes et comment tu les as choisis?
Alors, évidemment, je suis sûr que je vais en oublier. Mais on part sur des principes qui sont assez connus.
Ouais.
On va avoir l'alimentation, l'eau, l'air. Ensuite, on va basculer dans les ondes électromagnétiques, parce que ça, c'est quand même un très gros sujet aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a quelques années, parce que entre 1925 et maintenant, la quantité d'ondes électromagnétiques autour de nous a été multipliée par environ 2300.
Ah oui, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Et ensuite, une fois qu'on a ces éléments, on va s'ouvrir sur la nature qui nous manque, le mouvement qui nous manque. J'ai dit la nature, j'ai dit le mouvement. On a aussi les liens. Entre les êtres humains, j'en ai parlé tout à l'heure. On a la spiritualité aussi. Donc voilà, je suis sûr qu'il m'en manque un ou deux. Mais
pour donner envie finalement aux auditeurs d'aller lire le livre, parce que tu les décris tous dans le livre.
Exactement, ils sont tous décrits, mais chacun des paramètres fait partie de la santé. Et j'insiste sur la spiritualité parce qu'on a tendance à un petit peu dogmatiser ça aujourd'hui. Et pourtant, il y a des études qui montrent que les personnes qui croient en quelque chose, qu'importe ce quelque chose, ont souvent beaucoup plus de résilience, sont souvent beaucoup plus apaisées quand il leur arrive quelque chose dans la vie, arrivent à se projeter en fait en voyant les choses de manière positive. Sauf que tout ça, on oublie que c'est pas ce qui se passe dans le cerveau. Enfin oui, ça se passe dans le cerveau, c'est nos pensées. Sauf que ça a un impact sur notre biologie. Parce que si on vit, on nous annonce une mauvaise nouvelle, mais on a confiance en se disant que l'univers, je prends cet exemple-là, fait ça pour nous, dans notre corps, on a peut-être moins d'hormones de stress qui vont moins impacter toutes les fonctions biologiques. Et donc, c'est tous ces paramètres-là. Et essayons de commencer par ce qu'on peut, avec douceur et bienveillance envers soi-même, et d'enchaîner et de rajouter des petites astuces au quotidien.
Justement, parmi les 11 principes, s'il y en a que un qu'on devait retenir ou un par lequel commencer, tu conseillerais lequel?
C'est une question qui revient souvent et en vrai, je pourrais renvoyer la question en disant celui par lequel commencer, c'est celui qu'on est prêt et capable de faire maintenant. Parce qu'il y a des gens, changer leur alimentation, c'est un vrai défi.
Bien sûr.
Même si c'est essayer de consommer bio, un petit peu plus bio ou moins transformé, parce que y a des notions de budget, on n'a pas tous le même mode de vie. Quand on voyage partout, tout le temps, c'est plus difficile de se faire un potager. Et il y a des personnes pour qui ce sera simple. Il y a des personnes pour qui essayer de diminuer ses ondes électromagnétiques et juste éteindre son portable quand il le porte sur soi, Bah, c'est simple. Alors, autant aller vers là. Quelqu'un qui se dit, voilà, je ne fais pas assez de sport, bah, je vais juste essayer de me lever de ma chaise de temps en temps. Alors là, je donne, évidemment, il y a plein d'autres astuces dans le livre, j'en donne des assez simples et grossières pour imager. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je suis capable de faire pour moi, reprendre le contrôle sur ma santé, reprendre le pouvoir pleinement. Et ça, ça dépend de chaque personne.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a démarré, là, il y a quelques semaines, la nouvelle année, l'année 2026, avec son lot de résolutions. Il y a beaucoup de gens qui se disent, cette année, c'est bon, je vais aller au sport 3 fois par semaine, je vais changer complètement mon alimentation, etc. C'est pas la bonne méthode, finalement. Il faut y aller étape par étape et ne pas faire de sport et se dire du jour au lendemain, je vais y aller 3 fois par semaine. C'est peut-être être un peu gourmand, j'ai envie de dire.
Bah, ça dépend des gens.
Ah oui, il y en a qui y arrivent.
Il y en a qui y arrivent. Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a, pour être très honnête, il y en a pas beaucoup. Mais il y en a qui y arrivent, qui se lancent ce défi-là et qui se disent je le fais et qui s'y tiennent. Mais en vrai, la plupart des gens vont se dire ok, c'est bon, pump it up, je fais 4 séances de sport à partir du mois de janvier et qui en gros vont en faire 1 semaine, la semaine d'après c'est 2, puis après je dors, je suis
fatigué. Il y a un empêchement et au final on se retrouve à avoir payé l'abonnement pour rien, quoi.
Parce qu'on est des humains. On est des êtres humains, ça prend, je crois que ça prend à peu près 90 jours pour qu'une nouvelle habitude s'installe. Donc, pour le faire, autant y aller petit pas par petit pas. Au Québec, on dirait baby step par baby step. Et moi, je dis toujours ça à mes clients quand ils viennent me voir. Alors oui, on dit client pour les personnes qui viennent voir des naturopathes, on peut pas dire patient, en tout cas en France. Donc, en fait, c'est d'y aller progressivement. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire dans cette liste-là? Et ça, vous vous engagez à le faire. Certains, je leur dis, pour commencer à travailler sur le sommeil, est-ce que vous êtes en mesure de juste pas mettre votre téléphone dans la chambre? On part du principe, ok, là je me dis qu'à partir du 1er janvier, j'ai 2 mois pour y arriver tous les soirs, je coupe mon téléphone, et si c'est pas votre réveil? Parce que si c'est le réveil, achetez-vous une vieille horloge, là. Vous savez, le truc qui fait dring, qui détruit les
oreilles. Ça donne envie de se réveiller en plus.
Voilà, hein. C'est sûr. Et on laisse le portable à l'extérieur de la chambre.
Mais justement, le téléphone portable, c'est un peu un ennemi à l'heure actuelle. On va pas se mentir. Il a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Tu mets en avant l'importance du silence et l'importance de ne rien faire dans ce livre. C'est un peu impossible aujourd'hui parce que dès qu'on a un petit moment creux, on a tendance à aller sur notre téléphone. Dès qu'on a un peu de silence, on a tendance à regarder des vidéos, etc. C'est pas une solution.
Non, c'est pas une solution. Le pouvoir de l'ennui. Il n'y a pas si longtemps que ça, on arrivait encore à s'ennuyer. Et quand on s'ennuie, finalement, on fait preuve de créativité. Il y a quelque chose qui se passe. Ce que j'aime donner comme exemple, c'est les endroits où on va quasiment rien faire, c'est si on se douche.
Bien sûr.
À part se laver, on fait pas grand chose.
C'est vrai que prendre son téléphone sous l'eau, c'est pas la meilleure des solutions.
Bah ouais, on risque d'avoir quelques problèmes pour le téléphone, on est d'accord. Mais combien de personnes ont eu des idées sous la douche?
Énormément.
Voilà.
Quand tu le disais, j'étais en train d'y penser. Où est-ce que j'ai des bonnes idées souvent? C'est dans le bain, dans la douche, ou aux toilettes, hein, parce que souvent aux toilettes aussi, t'as pas énormément de choses à faire non plus. À part si t'as ton téléphone qui traîne dans le coin.
C'est ça. Ou en faisant la vaisselle. Et en fait, le fait de s'autoriser de rien faire aujourd'hui, c'est un luxe. Et rien faire, ça peut être aller rien faire en forêt, aller rien faire en nature. Là, on fait d'une pierre 2 coups, on profite de la nature et en plus, on fait rien. Mais on n'imagine pas à quel point c'est important et c'est un vrai luxe de s'autoriser 5 minutes. C'est pas compliqué, 5 minutes.
C'est vrai que 5 minutes sur une journée, c'est pas énorme.
Et de redécouvrir qu'est-ce que c'est que s'ennuyer.
Parce qu'en plus, on a aussi tendance, souvent, tu parlais de faire la vaisselle, mais quand on fait la vaisselle, souvent, il y a la télé en fond. Quand on regarde la télé, on a notre téléphone entre les mains. Il y a des fois qu'on a 2 ou 3 écrans simultanément. C'est vraiment pas des bonnes choses.
Je peux être coupable, hein. Moi aussi.
Moi aussi, j'en parle en connaissance de cause.
Mais c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre le faire en conscience.
Ouais.
Et le faire de manière automatique. Moi, je sais que oui, quand un film m'ennuie sacrément et que je suis obligé de le regarder, ben, je regarde mon Insta, je regarde mes trucs, mais je sais que je le fais et j'ai conscience que je le fais. Par contre, quand c'est un automatisme, ben là, ça peut stimuler notre dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau, comme une petite molécule, mais c'est celle de l'addiction. C'est pour ça que TikTok est quasiment aussi addictif qu'une drogue, par exemple. Parce que ben, ça vient chercher ce qu'on a envie de regarder au fur et à mesure. Et donc, s'autoriser à s'ennuyer, c'est un vrai défi. Mais quel beau cadeau!
Mais tu parles aussi de TikTok. Aujourd'hui, les vidéos, en plus, on les regarde des fois en x2, x3 pour en regarder un maximum. Ça non plus, c'est pas quelque chose de...
Alors là, pour le coup, je suis le premier à même regarder à plus que x3 parce que j'ai beaucoup, parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir aller plus vite. C'est vrai que plus on habitue notre cerveau à aller vite, plus il aurait du mal à ralentir. Mais encore une fois, c'est une notion d'équilibre. On n'est pas tous obligés, quand on essaie de justement s'ennuyer ou de faire une petite pause, c'est pas je me mets en lotus, je me tiens droit et je fais une méditation. Parce que tout le monde n'y arrivera pas au début. Mais juste de se poser, de ne pas scroller et de rien faire, c'est déjà énorme. Et tu disais justement le fait de regarder x2 ou x3, bah là on est dans l'accélération. Et plus on fait ça, plus il va nous être difficile de méditer, de bloquer sa respiration, enfin de bloquer sur sa respiration, de regarder, d'en prendre conscience. Et en fait, quand il y a cet équilibre-là, ça ne dérange pas de regarder x2 ou x3, arrive à se poser. Et si on n'arrive plus à se poser, il faut peut-être justement se poser des questions.
Alors, il y a beaucoup de mauvaises habitudes, on en parlait, qui sont assez répandues. Est-ce que tu en vois revenir régulièrement chez tes patients et tu te dis tout le temps, c'est les mêmes choses qui reviennent ?
Oui, oh bah oui, si le livre est né, c'est exactement pour ça.
Okay.
Parce que je me suis rendu compte que j'avais au moins 95% de mes consultants ou clients qui venaient et qui ne faisaient pas les bases. Et que mon rôle, c'était de leur dire, essayez de manger un petit peu plus comme ça, essayez de respirer, prendre des pauses, aller en nature, etc. Et souvent, ça a réglé le problème. Donc à un moment, au bout de 13 ans de pratique, je me suis dit, je vais peut-être tout mettre dans un livre. Comme ça, au moins, les gens font ça avant de venir me voir. Et s'ils viennent me voir, eh ben là, il y aura de la matière. Il y aura quelque chose de peut-être plus profond à aller creuser. Mais je dirais que ce qui viendrait le plus, il y a vraiment le rapport à l'alimentation.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui vient souvent. Et la déconnexion avec la nature. Surtout dans mes consultants qui vivent en ville, parce que ça, c'est un truc qui apporte tellement sur le plan hormonal, sur le plan du système nerveux. C'est vraiment deux trucs qu'on voit de plus en plus. Ouais.
Quel petit changement simple, finalement, peut déjà avoir un gros impact plutôt sur notre bien-être ?
Le premier, moi je dirais, vous faites l'état des lieux de votre chambre.
Parce qu'on
oublie vraiment que la chambre, on est censé dormir dans la chambre. Enfin, il y a autre chose qu'on peut faire dans la chambre, mais disons que principalement c'est dormir que l'on doit faire et pas travailler. Pas regarder la télé. La chambre doit être associée dans notre cerveau à une zone de repos. Ou de folie, mais une zone de repos. Et combien de personnes dans la chambre vont avoir, par exemple, autour de leur lit, des multiprises qui vont toucher le lit ?
C'est pas bon, ça ?
Bah, en fait, il y a...
Alors, j'ai déjà vu des gens qui avaient carrément le multiprise dans le lit.
Oui,
alors ça, c'est déjà très dangereux.
Chez les adolescents, enroulé sur le pied du lit.
Ouais.
Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il y a une tension électrique qu'on appelle la tension induite.
Ok.
Cette tension-là, en fait, elle est plus petite que le voltage, quoique ça dépend. Sur certains ordinateurs, ça peut monter jusqu'à 80 volts. Mais elle est plus faible, mais elle est insinueuse. C'est-à-dire que si vous avez votre lit qui est collé au mur, avec une multiprise qui touche votre lit, ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui va passer par la multiprise et directement dans votre lit. Donc ça veut dire que vous allez être en gros branché toute la nuit. Sauf que ça, votre sommeil, comment vous voulez qu'il soit reposant ? Donc première petite chose, son lit, on essaie de le décaler de 10 cm du mur, on débranche tout ce qu'il y a autour, on met pas son portable, et en règle générale, ça transforme vraiment le sommeil. Après, il peut y avoir d'autres problèmes de tension induite, mais disons que juste ça, c'est une habitude toute simple et pourtant ça change beaucoup de choses.
Tu parlais de la télévision aussi, la télé dans la chambre, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas ?
Alors, on ne le conseille pas parce que ça va stimuler le soir en allant se coucher. Donc, si on se couche énervé après une bonne dernière série sur Netflix ou autre, et c'est sûr que là, on va avoir du mal à s'endormir. Après, il y a autre chose. Il peut y avoir un champ électrique ou un champ magnétique qui va se dégager de la télé.
Ouais.
Et si on... Alors, normalement, la télé, on l'a au pied du lit, donc ce n'est pas trop un problème parce que c'est plutôt éloigné. Mais oui, ce n'est pas recommandé juste parce que c'est un endroit où on doit dormir, c'est pas un endroit où on doit regarder la télé.
Moi, je fais partie malheureusement des gens qui ont besoin, enfin je pense en avoir besoin du moins parce que c'est mon habitude, d'un écran pour m'assommer. La télé le soir, ça m'assomme. Sans ça, j'ai du mal à m'endormir.
Mais je connais des gens comme ça, des gens
très
proches.
Mais c'est un vrai problème, j'en suis conscient.
Des gens très proches qui ont besoin. Et je sais pas si c'est véritablement l'écran là ou si c'est la manière en fait de s'abrutir. La manière en fait de regarder quelque chose et de finalement plus vraiment regarder pour basculer dans le sommeil. Ça pourrait être remplacé par autre chose. Mais je sais que normalement, la lumière bleue des écrans bloque l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, donc nous empêche de dormir. Et il y a des personnes, ils ont juste besoin de s'abrutir dessus. Et en fait, pour moi, ils ne regardent plus vraiment l'écran à un moment.
Ouais.
C'est juste que ça bascule dans le sommeil parce que c'est quelque chose de répétitif ou quelque chose comme ça qu'on consomme de manière inconsciente. Ou à moitié consciente.
On rappelle donc ton livre « Reprendre le pouvoir sur ta santé ». Il est destiné à qui ce livre ? Aux personnes qui ne vont pas bien ? À tout le monde ? Finalement, il n'y a personne qui va vraiment bien, je pense, sur cette terre.
Il est destiné à reprendre le pouvoir sur sa santé. Pour moi, je l'ai vraiment écrit pour toutes les personnes qui sont prêtes, qui ont vraiment envie de changer les choses, qui ont envie de pouvoir démêler le vrai du faux. Parce qu'on entend sur la bouffe, sur les ondes, sur plein de sujets, on entend tout un tas de choses parfois complètement opposées et incohérentes. Et l'idée, c'est de se dire, OK, moi là, je vais bien et je veux rester bien. Ou j'ai des problèmes de santé, j'ai pas nécessairement le budget pour aller consulter un naturopathe, ou j'ai des problèmes de santé qui sont un peu plus graves et j'ai un suivi médical, et on le garde, le suivi médical.
Oui, c'est important, c'est deux choses qui sont complètement différentes, le
rappel. Voilà, c'est vraiment important de le suivre, mais par contre, on va l'optimiser si on change des choses dans son hygiène de vie. Donc en vrai, c'est pour toute personne prête à s'engager, qui a vraiment envie, qui en a marre, qui a envie de changer les choses ou de faire en sorte de rester en bonne santé le plus longtemps possible.
Et ça, c'est important.
Ouais. Ouais, bah oui, rester en bonne santé. Là, tu parlais de l'espérance de vie au tout début. Bon, bah, une espérance de vie en bonne santé, rester en bonne santé le plus longtemps possible, je crois que c'est quand même plus sympa.
Et avec ton livre, on a toutes les clés en main. Nos auditeurs sont encore assez jeunes, donc c'est le moment de reprendre votre vie en main.
Et c'est pour ça que j'ai donné plein d'exemples sur les ondes électromagnétiques. Hein. On vous voit les jeunes avec le téléphone, les branchements, les tout ça. Je vous ai en consultation. Hein. C'est les parents qui amènent. Donc
Reprendre le pouvoir sur ta santé, c'est donc ton livre qui est sorti aux éditions HarperCollins. Merci Loïc, c'est un réel plaisir.
Merci beaucoup.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.